Rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots, comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio.
Radio pleine lune.
Radio Pleine Lune 93.8, la seule radio où vous pouvez entendre la Castafiore en direct. Grazie, Bianca Castafiore.
Prego, prego.
Radio Pleine Lune à 3.8 MHz, onde femme Radio Zone. Le soleil est encore là, mais la lune est dans vos oreilles. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Berne, pourquoi pas. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivi des rendez-vous, des coups de cœur de Marjolaine. Ensuite, notre programme en différé à 22h, vous pourrez écouter dans le cadre de l'émission Histoire d'une ville, l'histoire de Jenny Abbé, née à Varsovie en 1913. Ensuite, à 22h, c'est l'émission en chilien Rises. Vous êtes sur 93.8 MHz, onde femme Radio Zone. Dans quelques instants, nos nouvelles. Vous êtes sur 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. En Afrique du Sud, après 300 ans de pouvoir blanc et 27 ans de prison, Nelson Mandela choisit enfin son équipe présidentielle qui gouvernera l'Afrique du Sud. La liste, vous avez pu l'écouter déjà sur Remue Ménage, dans l'émission qui vous racontait la campagne électorale, les femmes avec beaucoup de place dans cette campagne. On leur a laissé également des places au gouvernement, puisque la liste de l'ANC comprend deux femmes, l'une qui sera ministre de la Santé, il s'agit de Nkosana Dlamini Zuma, et l'autre sera ministre aux entreprises publiques, il s'agit de Stella Sigcau. Par ailleurs, une femme est également présidente de l'Assemblée nationale, il s'agit de Frene Ginwala, c'est une femme africaine du Sud d'origine indienne. En Australie, l'ONU vole au secours des homosexuels tasmaniens pour que les droits de l'homme soient appliqués également aux pratiques sexuelles. En effet, la Tasmanie, l'un des 6 États fédérés australiens, prohibe toujours l'homosexualité qualifiée de crime contre nature. S'appuyant sur une décision des Nations Unies assimilant la répression de l'homosexualité à une atteinte aux droits de l'homme, la Cour suprême australienne demande à la Tasmanie de réviser sa loi. Les homosexuels espèrent créer un précédent dans le droit international. C'est en effet la première fois que l'ONU déclare que les droits de l'homme s'appliquent indépendamment de la sexualité des individus. Les droits des homosexuels font donc partie intégrante des droits de l'homme. Ce sera peut-être aussi la première fois qu'une telle décision suscitera une loi nationale contre la discrimination envers les homosexuels. En attendant, le gouvernement dans la capitale de la Tasmanie poursuit sa fronde et refuse de mettre sa législation sur l'homosexualité en conformité avec la décision de l'ONU. Pour le ministre de la Justice, il a déclaré « Je suis sidéré de constater qu'un comité onusien des droits de l'homme considère la sodomie comme faisant partie des droits fondamentaux de l'homme », a-t-il déclaré. La décision de l'ONU devrait en tout cas encourager les militants homosexuels d'autres pays où l'homosexualité est également illégale. Le militant qui a entamé cette action, Nick Tonen, soutient que la partie du code pénal tasmanien qualifiant les pratiques homosexuelles de crimes contre nature enfreint la Convention internationale des droits civiques et politiques. La commission onusienne a conclu à l'unanimité que cette loi constituait effectivement une ingérence dans la vie privée ainsi qu'une discrimination fondée sur la sexualité. Il est en tout cas significatif que l'ONU ait décidé que les articles de la Convention qui interdisent toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou autre appartenance s'appliquent également à la sexualité des individus. La Commission précise que le terme « sexe » doit être compris comme faisant également référence à la sexualité. Pas de terre pour les femmes. À Hong Kong, dans 720 villages ruraux, une loi coutumière interdit toujours aux femmes d'hériter. Libéraux et mouvements féministes tentent de faire bouger les choses. C'était sans compter avec l'opposition farouche des villageois et des conservateurs. La controverse remonte au moment où une femme, Madame Lo, a soumis un projet de loi visant à amender une législation vieille d'un siècle qui interdit aux femmes dans la partie rurale de la colonie, connue sous le nom des Nouveaux Territoires, d'hériter de propriété familiale. Cette loi, conservée par une administration coloniale qui voulait ainsi s'assurer le soutien du monde paysan, est le vestige d'une époque où les rizières et les étangs poissonneux n'avaient pas encore cédé la place aux gratte-ciel aux centres commerciaux. L'organisation des villageois, qui s'appelle Yongyi et Cook, organisme reconnu par le gouvernement, qui défend donc les intérêts des villageois, a établi un quartier général de la résistance pour protéger les maisons et les clans. Bien sûr, s'élever contre cette libéralisation. Ce parti, ce groupuscule plutôt, a organisé des manifestations, envoyé des représentants à la télévision et même demandé l'aide de Pékin. Dans le même temps, les groupes de femmes et les autres organisations libérales ont instauré une grande alliance contre la discrimination pour contrer le couc. Le monde politique est également divisé, les conservateurs soutiennent le statu quo, les libéraux, eux, prétendent qu'ils ne feront aucun compromis dans leur lutte pour l'égalité des sexes. Notre société, disent-ils, est en pleine mutation, nous devons y faire face, l'égalité devant la loi et les droits de l'homme concernent absolument tout le monde, dit d'ailleurs Madame Lo, très déterminée. Elle est d'ailleurs bien décidée à faire passer son amendement. Le couc a menacé d'élever des barricades autour des villages, en cas où cet amendement serait voté. En Chine, femmes condamnées pour avoir vendu des bébés. Deux femmes de la province de Zhejiang ont été condamnées à mort pour trafic de nouveau-nés, principalement des filles. Une des femmes a gagné environ 1 500 francs en vendant 19 bébés. L'autre, dont la condamnation a été suspendue pendant 2 ans, a reçu 1 300 francs en vendant, elle, 14 bébés. Aux États-Unis, une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée contre le président Clinton. Il s'agit d'une ancienne employée de l'État d'Arkansas qui a déposé plainte contre le président des États-Unis pour harcèlement sexuel. La femme demande environ 4 millions de francs de dommages et intérêts. Le président nie et la presse se montre très prudente dans cette affaire. La Maison-Blanche a catégoriquement démenti les accusations de la jeune femme. C'est de la pourriture de tabloïd sous un habillage juridique, a déclaré la Maison-Blanche. La plainte a été déposée au tout dernier moment, les faits avancés étant sujets à prescription à partir de dimanche. Madame Jones accuse Clinton, alors gouverneur de l'Arkansas, de l'avoir invité par l'intermédiaire d'un garde à monter dans sa suite à l'hôtel où se tenait une conférence pour laquelle elle travaillait comme hôtesse. Et là, le président lui aurait fait des avances sexuelles très précises qu'elle a refusées avant de quitter la pièce. C'est un magazine conservateur qui a évoqué l'affaire. Paula Jones, elle a détaillé également ses accusations au cours d'une conférence de presse organisée par un avocat républicain. Enfin, un groupe de pression également conservateur a pris la défense de la jeune femme en achetant des encarts publicitaires dans la presse il y a quelques semaines déjà. Cette exploitation politique de l'affaire, avant même qu'un recours en justice ne soit déposé, explique la réserve dans laquelle se sont contenus jusqu'à présent la plupart des grands quotidiens. La présidente de la grande organisation féminine Now a reconnu que si toute accusation de harcèlement sexuel doit être prise au sérieux, le soutien apporté par différents groupes politiques à Paula Jones était assez gênant. L'une des sœurs de la plaignante a même affirmé à la télévision que les motivations de Paula étaient essentiellement financières. On a déjà d'ailleurs essayé d'arriver à un arrangement avec la menace de porter plainte. Plusieurs éditorialistes évoquaient ces deux derniers jours avec appréhension le spectre d'Anita Hill, la jeune femme qui avait accusé le juge Clarence Thomas, candidat à la Cour suprême, de harcèlement sexuel, et ont unanimement conclu, de la droite à la gauche, que la politique américaine n'aurait rien à gagner à ce genre de déballage public et d'attaque personnelle. Toujours aux États-Unis, près de 3 millions de petites filles, de fillettes âgées de 9 à 15 ans ont manqué l'école pour accompagner un de leurs parents au travail. Le 28 avril est en effet le Take Our Daughters to Work Day, le jour où nous emmenons nos filles au travail. C'est une manifestation organisée depuis l'année dernière pour élargir les horizons des filles et leur donner confiance en elles. L'initiative, rapporte le Los Angeles Times, est accueillie avec enthousiasme par les grandes entreprises qui voient une occasion de se montrer féministes sans rien faire de concret pour la cause des femmes. La directrice d'une école américaine au nord de Hollywood a fait un pari. Elle s'est engagée devant ses élèves, des jeunes élèves de 6 à 11 ans, à manger un verre de terre si chacun d'eux lisait au moins 2 livres. Du coup, les enfants se sont rués à la bibliothèque, se sont transformés en lecteurs assidus et bonne joueuse. La directrice a donc déglouti en classe devant les élèves 2 verres de terre. En Angleterre, on est bientôt trop vieux pour l'hôpital. En tout cas, c'est ce qu'on a répondu à deux hommes de 70 ans qui désiraient se faire soigner en Angleterre. Une des personnes, 74 ans, souffrait d'arthrite chronique, demandait d'être admis à l'hôpital pour un traitement de kinésithérapie. On lui a répondu que c'était impossible après 65 ans. Le deuxième, 78 ans, souffrait de douleurs à la poitrine, devait subir des examens, mais on l'a renvoyé de l'hôpital en lui conseillant de consulter un service de gériatrie. En Roumanie, le gouvernement doit revoir sa législation sur l'adoption. 3600 enfants roumains ont été adoptés en 1993. Une grande partie par le biais d'agences d'adoption non reconnues, un plus ou moins grand trafic. C'est donc la troisième fois en 4 ans que la Roumanie est forcée de revoir sa législation sur l'adoption à cause de cette augmentation des adoptions privées, si ce n'est pas du trafic d'enfants. Selon les statistiques de la justice roumaine, 3600 enfants roumains ont été adoptés en 93. Il a été prouvé qu'il est possible aujourd'hui de trouver en partie des familles en Roumanie, en tout cas pour la plupart de ces enfants, plus de 3000. Les autres seraient partis en Italie, USA et en France. Cependant, une tendance récente, inquiétante, c'est le nombre élevé de familles roumaines qui contactent le comité roumain pour l'adoption en annonçant leur désir de donner, si ce n'est vendre leur enfant, pour adoption. Pas moins de 500, rien que pour le mois de janvier 1994. En France, pour les élections européennes, on lorgne du côté des femmes. La moitié des candidats du PS au scrutin du 12 juin sont des candidates. Et si elles ne sont que 19 sur les 87 concurrents de la droite, la place des femmes sur les listes n'en est pas moins constituée un sujet majeur de cette campagne européenne. Chacun son style. Par exemple, Michel Rocard a constitué comme chef de liste des socialistes une liste qu'on appelle « Shabadabada », un homme, une femme, un homme, une femme. Quant à la majorité de droite, conduite par Dominique Baudis, elle a également fait une liste, si on peut dire, shabadabada, un UDF, un RPR, un UDF, un RPR. Les femmes étaient un peu plus oubliées. Michel Rocard avait d'ailleurs mis comme condition à sa candidature qu'il y ait des femmes derrière lui, que derrière moi, dit-il, cette liste soit composée à stricte égalité de femmes et d'hommes, qu'un candidat sur deux soit une candidate, et ce, du début à la fin. Plus récemment, un congrès du CDS, avec le président de l'UDF, Valéry Giscard d'Estaing, avait émis le vœu, j'espère, une présence féminine suffisante sur la liste de Dominique Baudis. Les femmes seraient donc les vedettes de ces élections, bien sûr, européennes, la réalité un peu moins idyllique. Il faut savoir que cette touchante attention n'avait bien sûr pas été imaginée lors d'élections plus importantes pour la France, telles que les législatives ou les cantonales. C'est uniquement à l'occasion d'un scrutin proportionnel qui n'a pas une grande influence sur le fonctionnement des principales institutions françaises qu'on pense aux femmes tout à coup. Donc la gauche, les socialistes arrivent avec une liste à moitié féminine. Par contre, du côté de la droite, il n'y a que 19 femmes pour 87 sièges. La droite n'est pas à la hauteur de ses promesses. La centriste Nicole Fontaine avait humblement réclamé une femme sur trois, pas une sur deux, parce que nous sommes raisonnables. Eh bien, elle n'a rien eu de tout cela. Quant au RPR, eh bien, il compte dans ses rangs seulement 4 femmes. Le Parti républicain ne s'est même, lui, pas donné la peine de laisser une place éligible à sa seule élue sortante. Quant aux autres listes, le chef du fil du MRG, Bernard Tapie, fait comme la droite, 18 femmes sur 87. Le PCF, qui a toujours été attentif à la moitié de candidates. Brice Lalonde, pour Génération Écologie, n'a jamais très bien compris pourquoi c'est tellement intéressant d'avoir des femmes. Il se contente d'un tiers de femmes. Quant aux Verts, eux, c'est la seule liste qui est conduite par une femme, Marianne Isler-Béguin. Quant au Front National, qui est finalement le seul parmi les habitués des scrutins européens à n'avoir manifesté aucun intérêt particulier à l'égard de la représentation féminine. Dans un pays qui envoie sans état d'âme depuis 40 ans 5 à 6% de femmes à l'Assemblée nationale, c'est quand même un peu une première. Toujours en France, nouvel accès de fièvre dans les hôpitaux. 2 syndicats d'infirmiers appelés à manifester aujourd'hui à Paris. Plus de 1000 infirmières sont descendues dans la rue. 2 journées d'action sont également prévues par les syndicats le 17 et 18 mai. Autant de symptômes de la tension actuelle due aux restrictions budgétaires, au couac sur la réduction du temps de travail ou au retard en matière de revalorisation salariale. Il faut savoir que la volonté du ministre des Affaires sociales de supprimer 20 000 lits d'hôpitaux dans les prochaines années et de fermer des petites maternités est jugée pour certaines d'entre les infirmières comme une pratique très dangereuse qui alimente toutes les inquiétudes. Face à cette menace d'une explosion sociale, le gouvernement, qui a souvent considéré les infirmières comme un espèce de thermomètre de la contestation sociale, s'est employé ces dernières semaines à désamorcer un peu les conflits en débloquant presque 1 milliard de francs. Il s'est donné les moyens d'honorer l'ensemble des revalorisations qui avaient été signées en 88 et qui devaient intervenir en 93 et qui interviennent donc en 94. Dans cette période de restrictions budgétaires, le personnel hospitalier a l'impression aujourd'hui de passer en dernier et que le gouvernement ne donne plus aux hôpitaux les moyens suffisants pour faire face à leur mission. $15 millions de futurs décès dus à l'accident, à la catastrophe de Tchernobyl. Dans les 10 prochaines années, 15 millions de personnes mourront sur le sol de l'ex-URSS et je ne compte pas dans ce chiffre les victimes à l'étranger, a estimé Vladimir Tchernousenko, chef d'un groupe d'experts qui avait présenté en décembre 1986, à la demande du gouvernement soviétique, un rapport resté confidentiel sur les conséquences de la catastrophe du 26 avril 1986. Vladimir Tchernousenko a lui-même été irradié lors de l'explosion. Le cancer dont il souffre lui laisse une espérance de vie de 2 à 3 ans. Histoire spéciale de la fécondation par chaise, une chaise miraculeuse en Israël. Les clients du supermarché israélien d'Ashod forment chaque jour une longue file. Elles n'attendent pas d'être servies. Elles espèrent simplement s'asseoir sur la chaise. 2 ans auparavant, un rabbin, Itzhak Kadouri, auquel ses disciples attribuent des pouvoirs guérisseurs, avait présidé à l'inauguration de la chaise, assis sur cette chaise. Et depuis, eh bien, tous les gens, toutes les femmes, bien sûr, qui s'asseyent sur cette chaise se retrouvent enceintes. Louche. En effet, 4 caissières, dont une qui avait même perdu tout espoir d'être enceinte, s'est retrouvée donc enceinte. Et cette soudaine vague de fécondité fut mise, bien sûr, sur le compte de la coïncidence, mais en l'espace d'un an, 6 autres caissières sont également parties en congé maternité. Les 10 employées s'étaient assises sur la chaise utilisée par le rabbin. La rumeur n'a fait qu'un tour dans ce pays où la fertilité est une obsession, puisqu'il y a une clinique in vitro pour 28 000 habitants. 30 à 100 femmes font chaque jour la queue au supermarché où les affaires ont grimpé au même rythme que les naissances qui se compteraient par semaine, par centaines, excusez-moi. En Suisse, l'âge de l'AVS pour les femmes serait porté à 64 ans. Il y a le feu vert de la Commission des États après celle du National. L'adaptation se ferait en plusieurs années. L'âge à laquelle les femmes donc pourraient aller à la retraite serait de 64 ans. C'est la Commission du Conseil des États qui a pris cette décision dans le cadre de l'examen de la 10e révision de l'AVS. Le débat à la Chambre devrait avoir lieu en juin. Et il y aura sûrement une atmosphère passionnée puisque les syndicats, toutes tendances confondues, ont déjà déclaré lancer un référendum contre cette décision. Selon les modalités mises au point par la Commission, l'adaptation se ferait progressivement et ce n'est qu'en 2005 que les femmes travailleraient jusqu'à 64 ans. Ce sont bien entendu des raisons financières qui ont pesé le plus lourd dans la balance de la Commission par rapport au premier vote du Conseil des États en 91. Pour Christiane Brunner, porter l'âge de la retraite des femmes à 64 ans, c'est une aberration totale. Contraindre des femmes à travailler 2 ans de plus alors que des jeunes cherchent du travail n'a pas de sens. Cela rapporte un peu plus à l'AVS, mais cela entraîne d'un autre côté des frais supplémentaires pour l'assurance chômage. Quant à Ruth Dreyfus, pour une fois, elle est sortie de son silence et de sa collégialité pour envoyer une lettre ouverte aux différents rentiers angoissés, précisant en espérant que cette modification ne s'impose pas. La ministre de l'Intérieur a donc voulu rassurer les rentiers angoissés. Le système est solide, il n'y a pas péril en la demeure, dit-elle. L'élévation de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans aurait pour conséquence de mettre exclusivement à la charge des femmes le financement de cette 10e révision de l'AVS. Telle est la conviction de Ruth Dreyfus qui devra défendre le dossier devant les chambres des cantons lors de la prochaine session. La conseillère fédérale a publié une lettre ouverte aux femmes et aux hommes inquiets de l'avenir de l'AVS et du prix à payer pour sa 10e révision. Qu'ils soient rassurés, il n'y a nul péril en la demeure. Le système est solide. Porter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans pour les femmes reviendrait à leur faire porter à elles seules le financement de la 10e révision. Or, écrit Ruth Dreyfus dans cette lettre ouverte, les femmes ne sont pas les seules bénéficiaires de cette révision qui réalise enfin le principe de l'autonomie de la femme et le partenariat dans le mariage. De plus, celles qui toucheront des rentes au cours des prochaines décennies subiront encore les conséquences des discriminations dont elles ont été ou dont elles sont victimes dans le monde professionnel. Bien sûr, sortie de Ruth Dreyfus a fait énormément couler d'encre. Ce n'est pas souvent qu'un conseiller ou une conseillère fédérale se distance avant même que le débat soit dans le camp du Conseil fédéral. Par son intervention surprise, Ruth Dreyfus montre qu'elle n'entend pas laisser la majorité masculine des chambres cuire aussi aisément les carottes. Elle devra auparavant passer par une autre majorité masculine, celle du Conseil fédéral, lequel bien sûr s'est déjà rallié au report à 64 ans. La pression de la droite en faveur des 64 ans a déployé ses principaux effets aux chambres où le dernier acte reste à jouer. Les syndicats ont pour leur part annoncé une grande manifestation en faveur du maintien à 62 ans, manifestation qui pourrait rappeler l'immense mobilisation féminine qui avait accompagné l'élection de Ruth Dreyfus. Dans ce contexte d'épreuve de force, le Conseil fédéral, s'il désavoue Ruth Dreyfus, devrait logiquement lui enlever ce dossier. C'est ce qui s'était passé dans le cas de Kurt Fugler, qui n'avait pas été d'accord avec la proposition de loi libéralisant l'avortement. Il n'avait pu effectivement faire avancer le cas de conscience. Mais encore, aujourd'hui, on imagine mal que le Conseil fédéral ôte à la seule femme du gouvernement ce dossier qui touche directement, bien sûr, les femmes de ce pays. Quant à la droite, elle est bien sûr partie sur les barricades. Comment cette femme, déjà qu'elle se fait élire dans ce club, qui a toujours été un club sélect d'hommes, et voilà qu'elle ne respecte pas la fameuse collégialité. Et pour la droite qui s'est donc élevée, représentée entre autres par le libéral Jacques-Simon Aigli, qui sévit comme éditorialiste dans le journal de Genève, on peut lire dans cet éditorial que d'un point de vue humain, on peut comprendre Ruth Dreyfus, mais d'un point de vue politique, en regard du fonctionnement d'un gouvernement collégial, son dérapage n'est pas acceptable. Cet appel au peuple, par-dessus la tête de ses collègues, en dehors de la procédure parlementaire, avant qu'elle ne se termine, n'est politiquement pas acceptable. Et vive la démocratie. La grande question, continue Simon Aigli, et celle-ci, dès lors que cet aspect personnel, à tort ou à raison, prend le dessus chez elle, est-elle bien à sa place au Conseil fédéral? Ou bien est-elle mieux à sa place dans les fonctions importantes qu'elle exerçait au syndicat et pourquoi pas à la maison? Poser la question n'est rien d'une méchante polémique, c'est même la moindre des choses après avoir eu connaissance de cette lettre ouverte incroyable. Et voilà, pour la droite, une occasion rêvée. Madame Ruth Dreyfus, rentrez donc à vos fourneaux. Et comme je vous le disais, l'Union syndicale suisse et le Parti socialiste suisse, qui s'opposent donc au relèvement de l'âge de la retraite, appellent à une grande manifestation nationale pour le 1er juin. Tant que les femmes gagneront en moyenne 30% de moins que les hommes, il est absolument absurde qu'on relève l'âge de la retraite pour les femmes. À Genève, le personnel de la cafétéria de l'hôpital est en colère. Les employés de la cafétéria de l'hôpital de l'hôpital cantonal se sont mis en grève pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et contre deux récents licenciements. Suite à la désertion de la cafétéria par les clients et le personnel médical, la direction de l'employeur, une maison privée extérieure à l'hôpital, a accepté la plupart des revendications des grévistes. « deux femmes pacifistes yougoslaves, Natalia Vuskovic, des femmes en noir de Belgrade, et Vesna Janković, de la campagne anti-guerre en Croatie, devaient participer vendredi et samedi à un symposium organisé par le groupe pour une Suisse sans armée. Mais l'Office fédéral des étrangers a fait savoir qu'aucun visa ne serait délivré pour permettre leur venue, puisqu'il s'agit d'un boycott de la Serbie. On sanctionne des pacifistes et on déroule le tapis rouge pour Milosevic, se fâche Paolo Gilardi, attribuant cette mésaventure à la bêtise des quelques hauts fonctionnaires. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz.
The thunder I hear in advance. His words and his words alone are the words that can stop.